Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Ils sont 154 775 candidats à l'assaut du bac cette année. La session normale de 2021, toutes séries confondues, a débuté hier sur l'ensemble du territoire national. Lutte contre le terrorisme, la majorité présidentielle appelle à l'Union nationale afin de vaincre justement le fléau. Situation sécuritaire justement au Ouézin, lui ou l'on dans son édito nous en parle, vous l'aurez compris, nous sommes à vendredi. Crise sociopolitique en Haïti, on en parle avec Ismaël Diallo, défenseur des droits de l'homme, il est notre invité. Bonjour et bienvenue. Ils sont 154 775 candidats, toutes séries confondues, allés à la conquête du bac cette année. Ils ont pris d'assaut les centres d'examen hier pour le début des épreuves écrites. En présence des autorités communales du plateau central, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kassou Maïga, a procédé à l'ouverture des premières enveloppes des épreuves. C'était au lycée provincial Bassi de Zignari. Soumena Traoré et Judith Traoré pour le reportage.
À l'image de ces candidats qui composent ici au lycée provincial Bassi de Zignaré, ils sont 154 775 candidats, toutes séries confondues, à la recherche du baccalauréat. Ce sont des candidats concentrés et déterminés à décrocher le précieux sésame qui ouvre les portes aux universités que le ministre de l'Enseignement supérieur, Al-Kassou Maïga, a rencontré.
Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour du bac. Bon, je suis venu pour composer. Moi, je n'ai pas peur. Voilà, je suis confiante.
Oui, je suis confiante parce que j'ai eu toutes les 9 mois pour me préparer. Donc, je pense que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je suis prête pour confronter les sujets.
D'abord, grâce à Dieu d'avoir parvenu à ce jour qu'on attendait. Et en tout cas, on s'est bien préparé. Du moment où les programmes se sont bien déroulés, j'espère qu'on est mieux formé pour affronter le programme. Donc, les épreuves de baccalauréat.
Dans chacune des salles de composition où il est passé, ce sont des conseils et un message d'encouragement qu'Al-Kassou Maïga à livrer.
C'est que les candidats soient dans la concentration, comme on leur a dit, de rester calme et concentré sur l'objet de la semaine pour eux, c'est l'examen du baccalauréat. Nous avons précisé également qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais qu'il s'agit d'un examen, et que par principe, un examen, il n'y a pas de nombre de places limitées.
Selon Al-Kassou Maïga, c'est toute une logistique qui a été déployé pour la présente session, dont le coût d'organisation s'élève à 6 milliards de francs CFA. Les 154 775 candidats à l'examen du baccalauréat sont repartis dans 579 jurys. Les 10 jurys sont logés dans 331 centres d'examen repartis sur l'ensemble du territoire. En matière d'innovation, on enregistre 3 nouvelles options du baccalauréat professionnel. Il s'agit des options froid et climatisation, transformation des viandes et œufs et énergie solaire. Les résultats du premier tour sont attendus pour le 16 juillet prochain.
Merci à Judith Traoré, notant que cette session 2021 du baccalauréat enregistre des élèves déplacés internes. Selon le ministre Al-Kassou Maïga, des dispositions ont été prises pour permettre à ces derniers de prendre part à cette session. Nous l'écoutons.
Le ministère en charge de l'éducation nationale avait pris des dispositions parce que il n'était pas question du tout que, parce que des parents étaient déplacés, que des enfants restent en rade par rapport au système éducatif. Donc, les dispositions ont été prises pour que ces enfants soient intégrés dans les écoles, donc des zones d'accueil, en faisant aussi une amélioration des capacités d'accueil de ces écoles-là. Ce qui fait que, normalement, il n'y a pas normalement d'enfants, de parents déplacés qui ne sont pas dans une école. Des situations particulières peuvent arriver, ça peut nous échapper, mais les dispositions ont été prises. Donc, dans ces conditions-là, s'ils sont dans des écoles, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas passer des examens. Donc le ministère de l'Éducation a travaillé à cela et ça nous facilite la tâche au niveau de l'enseignement supérieur pour administrer donc l'examen du baccalauréat.
La région du Centre-Ouest, ils sont 14 000 candidats dans la localité pour cette session 2021 du bac, contre 10 852 l'an passé. Le lancement de cet examen a eu lieu à Ténado, dans la province du Sanguier, où les autorités de la région du Centre-Ouest sont allées encourager les élèves dans la matinée d'hier. Le compte-rendu est signé Sabuna Ouedraogo.
Pendant que certains candidats affichent une certaine sérénité, d'autres ont du mal à cacher leur crispation. Pourtant, tous dans ce lycée de deux jurys de Ténado sont à la conquête de leur premier diplôme universitaire.
Je suis prête pour l'épreuve session 2021.
Depuis octobre, nous avons appris ce qui est nécessaire. Donc, il n'y a pas à dire que nous ne sommes pas prêts. Non, je suis prêt.
Au BPC, la région a eu un taux de succès de 26,62%, un chiffre insuffisant par rapport aux prévisions. L'on jette désormais son dévolu sur les prétendants au bac pour avoir beaucoup d'admis pour le compte de la région. Bernadette Zongo, directrice régionale des enseignements post-primaires et secondaires du Centre-Ouest. Et
les taux de succès au baccalauréat sont nettement meilleurs. Et j'espère que cette année, les enfants ne vont pas déroger à cette règle. Nous espérons avoir, comme l'a souhaité Madame le gouverneur, plus de 50%.
Cette année scolaire a été perturbée par des grèves à cause des réformes voulues par les autorités. Du coup, la tenue de cette session du bac semblait compromise. C'est dire que c'est un soulagement de voir les élèves commencer ces épreuves écrites. Irène Koulibaly, gouverneur du Centre-Ouest.
Gloire à Dieu, aujourd'hui nous sommes au lycée départemental de Ténado où nous avons procédé donc à l'ouverture de la première enveloppe. Je voudrais en tout cas souhaiter que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions.
L'urgence sécuritaire que vit le Burkina nécessite une union nationale afin de vaincre le terrorisme pour l'intérêt général des Burkinabènes. C'est ce que pense la majorité présidentielle qui a tenu une conférence de presse hier. Selon elle et ses alliés, le CFOP à travers ces marches meetings a été irresponsable au lieu de privilégier donc le dialogue politique qui était fixé les 3 et 4 juillet dernier. Chalda nous en dit plus.
L'heure n'est plus au fustige. Il faut oublier les intérêts personnels et se mettre à table pour trouver des solutions afin de freiner le terrorisme au Burkina. S'est accordé l'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP qui ajoute que chaque Burkinabé doit être un soldat en réserve pour le front. Benewende Stanislas Sankara, porte-parole de l'APMP.
Qui dit guerre, dit forcément que la patrie est en danger et que tous les patriotes sont appelés, même sous les drapeaux. Je crois que nous sommes tous des officiers ou des soldats en réserve quand il s'agit d'une guerre contre le Burkina Faso. Et je crois qu'il faut tout de suite dire que le contexte de guerre nous appelle en tant qu'acteurs politiques beaucoup plus à la réserve.
La PMP, à travers cette conférence, compatit aux difficultés que vivent les forces de défense et de sécurité sur le champ de bataille. Maître Benewende Stanislas Sankara, porte-parole de la PMP.
L'alliance des partis de la majorité présidentielle reste sereine et engagée dans la lutte au quotidien de notre peuple pour relever ces énormes défis de l'heure, notamment ceux en rapport avec la sécurité au FDS et au VDP. La PMP le réitère son soutien inconditionnel et son entière confiance quant à la victoire finale.
Revenir impérativement sur le dialogue politique avec tous les acteurs, assurer la sécurité des institutions de l'État ont été des recommandations faites par l'APMP au gouvernement.
Et puis parlant de situation sécuritaire, justement, le président du Faso Roch Kabore prend part aujourd'hui aux côtés de ses pairs à un sommet extraordinaire sur la stabilité au Sahel, un sommet dans le cadre du G5 Sahel. La rencontre va se tenir sous le thème « La stabilité régionale ». Cette session élargie à la France sera consacrée d'une part à la désignation du nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel et d'autre part à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace sahélien. La rencontre devrait aussi préciser le futur sur engagement français dans la région sahélienne, peut-on lire sur la page Facebook officielle de la présidence du FASO. Et puis des images de poissons morts sur les bords du fleuve Mouhoun circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une situation due à une pollution au cyanure et aux pesticides, selon les premières rumeurs. Le ministère de l'Eau a annoncé hier que cette situation n'est pas due à une pollution chimique, mais plutôt à une augmentation de la turbidité, un phénomène observé à chaque année et causant la mort de certains types de poissons. Le directeur général de l'agence de l'eau du Mouhoun, Boureima Akwanda, a été joint par Benabé Cabré.
Les services techniques nous ont dit qu'ils ont obtenu un pH de 7, un pH neutre qui naturellement rassure qu'il n'y a pas normalement une pollution chimique. Il y a également eu d'autres mesures telles que la conductivité de l'eau. Il y a également eu des investigations microbiologiques qui prouvent qu'il y a d'autres micro-organismes qui continuent à vivre tranquillement dans cette eau que nous pensons qu'elle est chimiquement polluée. Toutes ces hypothèses-là, toute tendance à écarter une pollution chimique. Et par contre, il y a une pollution liée à la turbidité de l'eau. La turbidité, c'est quoi? C'est les particules de terre, les débris solides que les premières pluies entraînent dans le cours d'eau. Vous savez qu'au Burkina, la pratique courante, en début de saison, les cultivateurs remuent la terre partout. Et donc, les premières pluies de juin, de juillet, transportent la terre remuée là, dans le cours d'eau. Chaque année, ce phénomène-là se répète. Et il y a une catégorie de poissons qui ne supportent pas cette turbidité-là. Ça les asphyxie, ils meurent par défaut d'oxygénation.
L'éditorial d'Omega, c'est tous les vendredis sur nos stations radio et télé de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Cette semaine, Ouézien Louis Houlon revient sur les événements politiques et sécuritaires, avec notamment le remaniement ministériel, les marches-meetings de l'opposition. La situation sécuritaire est une urgence qui appelle à décisions fortes pour rassurer les Burkinabés. Édito signé Ouézien Louis Houlon.
Est-ce enfin une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme? Après la démonstration de l'opposition et le remaniement qui a précédé ces manifs, que va-t-on faire? Il n'y aura sans doute pas de répit, surtout après le pressant appel du maire de Madjouari. Madjouari, terrain d'application pour la nouvelle équipe en charge de la défense et de la sécurité, appelée publiquement à la rescousse par le conseil municipal de cette bourgade de l'Est du Burkina. Conseil délocalisé à l'occasion à la bourse de travail de Ouagadougou. Au même moment, les alertes de mouvements de groupes armés dans le Loroum sont venues augmenter la pression sur Roch et ses deux collaborateurs, Maxime et Barthélémy, qui ont lancé immédiatement l'aviation burkinabé à la chasse des groupes armés dans la nuit de mardi à mercredi, selon les populations locales. Être dans la dynamique de l'opérationnel terrain, rassurer le peuple que le pays est et sera gouverné, Roch d'astreinte à la tâche pour réaliser sa promesse de ne céder aucun mètre carré à un quelconque groupe terroriste. Revoir les stratégies militaires, évaluer notamment l'efficacité du couvre-feu qui, à voir de près, est un boulevard pour les groupes armés qui minent librement les routes les nuits venues face à l'incapacité pratique de l'armée burkinabé à couvrir tout le territoire burkinabé. Le renouvellement de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale avait donné l'occasion aux élus de questionner le gouvernement sur l'efficacité même de cette mesure. Le député Innocent Kouldiati l'a dit depuis 3 ans que l'état d'urgence est instauré dans la commune de Logobou. Mais les terroristes y sont tous les jours et on a vu arriver aucun élément des forces de défense et de sécurité. Chaque jour, les terroristes enlèvent de jour comme de nuit des délégués et des conseillers, mais personne ne vient faire de constat, avait lancé le député Kouldiati, appuyé par son parent Mathias Tendano, qui avait simplement réclamé une opération zéro officier supérieur dans les bureaux. À l'argument que le renouvellement de l'état d'urgence permettrait de franchir un nouveau palier dans la lutte, le député Gilbert Noël Ouédraogo avait demandé « Quel palier veut-on franchir et sur lequel étions-nous le jour du vote de la loi. L'Assemblée nationale recevrait nos félicitations si, après des questions aussi pertinentes, elle avait eu le courage de renvoyer le gouvernement. Mais non, sans avoir de réponse convaincante, ils ont tous voté. Et encore surprenant, ni le ministre de la Défense, ni son collègue de la Sécurité avaient été à l'audience ce 24 juin, laissant la débutante dans l'exécutif, Victoria Kibora de la Justice, se battre toute seule comme une diablesse. Les députés pouvaient à la limite proroger d'un trimestre l'état d'urgence, le temps de demander plus de comptes à l'exécutif. Bala Sakande et ses collègues ont raté le coach cette fois-ci, disons-le clairement. On se souviendra de cette guerre de Noël entre le Burkina et le Mali en 1985 où les rues de tous les départements du Burkina Faso étaient quadrillées par les comités de défense de la Révolution qui contrôlaient les identités des passants. On savait à l'époque qui entrait et qui sortait du village, sans oublier ces alertes dans les villes du Nord comme Kongoussi et Wayugia à une certaine heure de la nuit pour appeler les populations à quitter leurs cases et dormir dans la rue et dire que tout cela, c'était il y a 36 ans. Il est vraiment temps de revoir les choses car enfermer des gens comme de la volaille les soirs et leur retirer le droit de rouler à moto est définitivement une grosse aberration.
Omega Sport.
Place à Benabé Cabré pour l'actualité sportive.
Vice-président de l'UNC depuis 11 ans, Ousseini Touguma dit être prêt pour continuer le pari et le défi de la mobilisation des supporters autour des équipes nationales. Une candidature suscitée par la décision de l'actuel président Ablassé Amwego de ne pas rebeloter.
Comme mon président Amwego Ablassé a décidé de ne pas faire rebeloter, moi, en tant que vice-président, j'ai souhaité et le bureau complet n'a pas hésité. Ils ont approuvé ma candidature.
Ousseini Touguma est soutenu par 10 des 13 présidents des unions régionales des supporters des étalons. Ils ont tous effectué le déplacement, signe de leur fidélité à leur candidat. Joseph Sieyen, candidat chargé des régions.
C'est une confiance totale qui se dégage. Il y a eu un travail qui a été abattu dès le début, de la province jusqu'à la région. Tous les présents sont venus aujourd'hui pour répondre à l'appel, pour dire que nous sommes ensemble avec M. Touguma. C'est vrai que l'autre camp aussi travaille à voir comment aussi il peut glaner dans notre camp. Mais je pense que c'est un truc qui est impossible. Nous avons déjà travaillé.
Le candidat a élaboré un programme quatriennal avec comme slogan « Faisons de nos stades une source de motivation pour nos sportifs ». Son mandat sera axé autour de l'organisation, l'animation, la sensibilisation, la communication et la mobilisation des ressources.
Déjà, il y a un problème au niveau des supporters. Nous allons tout faire pour taire sur ces problèmes. Au niveau des stades, il y a des bagarres. Nous allons tout faire pour taire sur toutes ces bagarres. Nous allons sillonner les pays limitrophes pour pouvoir nous faire un peu d'argent parce que nous savions que le pays traverse un moment difficile. À chaud comme ça, on ne peut pas tout dévoiler.
Ousseini Touguma aura comme challenger Somaïla Ilboudo, ancien président de l'UNC. Le vainqueur sera connu le 17 juillet prochain à Ouagadougou.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Suite à l'assassinat du président haïtien Joseph Jovenel Moïse, le premier ministre par intérim Claude Joseph a pris le pouvoir. Il a décrété l'état de siège et annoncé un deuil national de 2 semaines. La police haïtienne de son côté dit avoir mené une opération dans la capitale Port-au-Prince au cours de laquelle 4 assaillants ayant perpétré l'assassinat ont été tués et 2 autres arrêtés. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame de son côté que les auteurs de l'assassinat du président soient traduits en justice. Sur cette crise sociopolitique en Haïti, Asmaou Daou a échangé avec le défenseur des droits de l'homme, Ismaël Diallo, que nous écoutons ici.
Ismaël Diallo, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous d'abord brièvement de l'histoire politique d'Haïti.
Il est très difficile de le dire en 2 mots. On pourra simplement retenir que c'est une histoire d'Africains mis en esclavage, transportés dans l'île de Saint-Domingue et qui donc travaillaient pour le colonisateur français. Et chemin faisant, ils se sont révoltés et ont conquis leur indépendance en janvier 1804. Et c'était la première république noire au monde. C'était l'île la plus riche des Caraïbes. Et il y a eu des influences très néfastes de l'ancien colonisateur et du voisin immédiat, les États-Unis, a été donc ballotté avec des crises internes et venues de l'extérieur. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'Haïti a contribué énormément à l'indépendance de beaucoup de pays d'Amérique latine. Le pays qui a lancé Simon Bolivar et Cuba également sait ce que Haïti a fait. Et même certains pays africains, Haïti a joué un grand rôle. Mais cela n'a pas été connu parce que les médias dominants sont des médias qui n'ont jamais eu envie de donner une bonne image à Haïti parce qu'Haïti a commis l'outrecuidance de battre les troupes de Napoléon à un moment donné.
Est-ce que cela peut expliquer la crise sociopolitique actuellement? Les 58 présidents que le pays a connus, c'est significatif dans l'histoire du monde, ce pays maintenant qui devrait faire preuve de démocratie. Est-ce que vous pouvez comprendre le chaos qui s'est installé ces temps-ci avec le président haïtien Jovenel Moïse qui a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi?
Quand la gouvernance faillit dans n'importe quel pays du monde, quel que soit le système, s'installent des groupuscules autonomes qui font monter la corruption, qui font monter l'incivisme, qui font monter la criminalité de tout genre. Et c'est ce qui s'est passé en Haïti.
La résidence privée d'un chef d'État infiltré par un commando d'hommes armés, c'est un scénario inimaginable dans certains pays, en tout cas pas en Haïti.
Oui, c'est des complicités. Vous savez, tous les chefs d'État qui ont été assassinés, c'est rare que des commandos soient venus de loin, venus à proximité du président et l'atteindre mortellement sans qu'il y ait des complicités. Donc il y a toujours des failles par lesquelles passent les criminels pour atteindre le président.
Le président Jovenel Moïse qui était contesté dans son pays, l'opposition avait d'ailleurs désigné un président de transition estimant qu'il était arrivé au terme de son mandat. Y a-t-il un lien? L'opposition pourrait-elle être comptable de cet assassinat?
Peut-être bien. L'opposition, les cartels de drogue, le grand banditisme et bien d'autres choses. Et peut-être même des milieux étrangers, ce n'est pas exclu.
Est-ce qu'on peut qualifier ce qui est arrivé en Haïti l'issue d'un fait d'être encore accroché au pouvoir? Les conséquences en fait?
Ça fait partie. Les chefs veulent rester au pouvoir, les aspirants veulent être chefs. Et autour de chacun, il y a des aigres fins, il y a des sanctions. Le jeu est complexe. Le président lui-même faisait partie des problèmes qu'Haïti a connus. Il était arrivé en fin de mandat, il n'a pas voulu partir. Un premier ministre a été désigné, qui n'a pas confirmé, et ainsi de suite. Alors c'était vraiment un écheveau de situations très complexes qui avait besoin d'un dénouement.
Est-ce que aller jusqu'au meurtre, est-ce que ce n'est pas aller loin?
C'est aller très loin. Ce n'est jamais régler un problème en éliminant physiquement quelqu'un. Jamais.
Assistons à un effondrement de l'État haïtien.
L'État haïtien s'est effondré il y a longtemps, hélas, il y a longtemps. Ce sont des apparences d'État qu'il y a en Haïti. Bon, voyons voir où ça va aller. Et il y a des décennies, les forces de défense et de sécurité s'ingéraient très fréquemment dans la vie politique, dans la gestion de l'État. Mais depuis un certain temps, elles ne le font plus. Mais la classe politique maintenant elle-même est devenue experte en mésentente et en querelle intestine.
Le chaos qui s'installe en Haïti, à quoi doit-on s'attendre les jours à venir?
On pourrait répondre au pire, mais c'est quoi le pire? La guerre civile, mais entre qui et qui? Que les forces de défense et de sécurité sortent de réserve et prennent le pouvoir, ou quoi? Bon, il faudrait également compter sur l'intrusion des États-Unis d'Amérique, de la France, qui ne vont pas rester indifférents à la situation. Washington a insisté sur la tenue des élections malgré l'assassinat du président. Comment peut-on tenir des élections dans cette situation de chaos total et d'incertitude? C'est totalement une vue de l'esprit et une vue de bureaucrate. Alors c'est une manière de dire faites des démocraties, après on verra. C'est ce que la CEDEAO, les Nations Unies et les autres sont en train d'imposer au Mali en ce moment et au Tchad. C'est pas ça la solution.
Ismaël Diallo, merci.
Ok, merci.
Ismaël Diallo, défenseur des droits de l'homme, est notre invité. Brema Maïga à la technique, à la présentation, Denis Zungrana, c'est tout pour ce journal. Merci d'être resté à notre écoute.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos.
Tum pam dunia kibe wakat bufa bi paradio omega kirozugu kabola tambo tek la we waga kabola na se tek la yo pe bobo dulaso.
Radio Omega kibe wa wakatu
kibe azura da la woto
ale
Abia bambe tous kwabrala pi nou la nase la neb kobisio poye la pisio poye la nou ambaode bangar ka 77 ngap subonde ti bakaloria wan Rwanda yum tsible yum pisi la ayemble aneng fin di libre Burkina Faso we visa anasa li le lor pole na ta ben zabne tan subon so san banga sanya ti parti politique la nis basante de be nam sul runda ablarmentar sul tubone ti majorité présidentielle bien que bolé na yilati zemanta ton zindi Burkina Faso pour kanin ti nata ba un zabne tan subon so san ni wi sur le pan ko e de kiba pour un tibala Nebanis Bahan y a un supporter d'Ambab Larmental sous l'Ibs, bon, est Union nationale des supporters des étalons, Abdal Sabahan, Palra, Ab Venrala, Nimbuidan, Yatina, Yijio, Tula, Sempigla, Yopoye, Labnan, Ninkanga, à Zaole, Lille, Wenge, Nantron, Pama, Banabe, Kabre, Kibaya, Basre, Yabulema, Maigambe, Machine de Moi, Radio Migatiranda, Bakramba, Nijibio. Runda ya arzumdale ya jio chugu la sima waendale yum tusible yum pisi la yemre ede kibaya menda kat la watone ti warsinde mwilgambari kibaya zulade abia karambis nata bam tus kwa pala pihinu la nase la bamba kubesyo po la pisyo po la nu mbaode bangal kaset sebe ningap sembonde ti bakalole o Burkina Faso wenvisa nasan tumda paka kulumse za mandara nantro mikameti ya gulu ba monsan binisi ninga hangeta karonga yele alkasum Maïra, bam te console, y signale, lycée Bassi, la te console, sena yla, titoum la te rompa, ma sing, Burkina Faso, visa na sa kalbi, bam fangili, be saini wala, banger weng, banger bo weng, cinquième, ne seb kanga, hana yla te rompa, ma tiang absombonde. Ti université. Toi, tu me taras Judith Traoré sans une bénin, pas ma professeur Rabiou Sissé, Bambia, université Joseph Kizerbo.